Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ce livre de William Van Den se présente comme un manuel pratique consacré aux crises de panique, à l'angoisse et plus largement aux troubles anxieux. D'après son titre et son positionnement éditorial, son objectif principal est d'aider le lecteur à reprendre du contrôle grâce à un entraînement mental structuré plutôt qu'une approche purement théorique. Le sujet s'inscrit dans le champ du développement personnel appliqué à la santé mentale, avec une orientation centrée sur la compréhension des réactions anxieuses, la diminution de la peur des symptômes et l'apprentissage d'outils concrets, en l'absence d'informations publiques détaillées sur le contenu précis chapitre par chapitre. On peut toutefois situer l'ouvrage dans la famille des guides d'Otwed qui vise à expliquer les mécanismes des attaques de panique, à réduire les anticipations catastrophiques et à favoriser une autonomie progressive. Le livre semble donc s'adresser à des personnes qui cherchent une méthode accessible pour mieux comprendre leur anxiété et développer des réflexes mentaux plus stables face aux montées de peur. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, comprendre le mécanisme des crises de panique. Un manuel consacré aux crises de panique commence généralement par un travail de clarification. Beaucoup de personnes vivent ces épisodes comme un danger immédiat, alors qu'ils relèvent le plus souvent d'une activation intense du système d'alerte. Dans le cadre d'un livre centré sur la libération des troubles anxieux, cette étape est essentielle car elle aide à sortir d'une lecture dramatique des sensations physiques. Accélération du cœur, souffle court, vertige, tension musculaire ou impression de perdre le contrôle sont souvent interprétés comme des signes graves, ce qui nourrit la panique elle-même. Une approche pédagogique vise alors à montrer le cercle classique entre sensations, interprétations menaçantes, montée de peur et renforcement des symptômes. Le lecteur peut ainsi comprendre que la peur de la crise devient souvent un facteur de maintien du problème. Cette mise en perspective ne supprime pas instantanément l'anxiété, mais elle réduit la confusion et la honte qui l'accompagnent. Elle constitue aussi une base solide pour les exercices mentaux ou comportementaux ensuite proposés, car on agit mieux sur ce que l'on identifie plus clairement. Sur ce point, le tome du livre semble cohérer avec les principes reconnus des approches contemporaines de l'anxiété. Deuxièmement, l'entraînement mental comme levier de changement. Le sous-titre du livre met en avant un manuel d'entraînement mental, ce qui suggère une logique de pratique répétée plutôt qu'une simple lecture informative. Dans le champ de la gestion de l'anxiété, cette idée est importante car les réactions de panique sont souvent automatiques et profondément ancrées. Un entraînement mental vise donc à modifier progressivement les habitudes d'attention, d'interprétation et de réponse face à la peur. Cela peut inclure un travail pour observer les pensées anxieuses sans s'y soumettre immédiatement, repérer les scénarios catastrophiques, ralentir les enchaînements mentaux et revenir à une perception plus réaliste de la situation. Le terme entraînement implique aussi de ne pas attendre une disparition magique de l'inconfort, mais de développer une compétence psychologique avec régularité. Cette orientation donne au lecteur un rôle actif, ce qui est particulièrement pertinent pour des personnes qui se sentent prisonnières de réactions incontrôlables. Dans la littérature d'Otwed sur les attaques de panique, les ouvrages utiles sont souvent ceux qui insistent sur la répétition, la progression et la patience. En ce sens, la promesse du livre repose moins sur une formule spectaculaire que sur la construction d'habitudes mentales nouvelles destinées à desserrer l'emprise de l'angoisse au quotidien. Troisièmement, réduire la peur des symptômes anxieux. Un point central dans la prise en charge des attaques de panique consiste à rompre avec la peur des sensations elles-mêmes. Les personnes concernées ne redoutent pas uniquement certaines situations. Elles craignent souvent leur propre corps et les manifestations internes de l'anxiété. Cette crainte secondaire entretient un état de vigilance permanent. Dans un livre qui promet d'en finir avec les crises de panique et d'angoisse, il est logique que l'accent soit mis sur ce mécanisme. La difficulté n'est pas seulement la présence de symptômes, mais la signification qu'on leur donne. Si chaque battement cardiaque rapide est vécu comme une menace, chaque tension devient le début possible d'une crise. Le travail mental consiste alors à réinterpréter ces signaux comme désagréables, mais pas nécessairement dangereux. Cette évolution est capitale, car elle diminue le réflexe d'alarme qui déclenche les spirales de peur. Une telle perspective aide aussi à comprendre pourquoi l'évitement ne résout pas durablement le problème. En cherchant sans cesse à éviter les sensations anxieuses, on confirme implicitement qu'elles sont insupportables. Un guide sérieux sur ce tome encourage donc plutôt une familiarisation progressive avec ces manifestations, afin de restaurer un rapport plus calme et plus lucide à l'expérience corporelle. Quatrièmement, sortir des stratégies d'évitement et de contrôle excessifs. Les troubles anxieux se maintiennent souvent grâce à des comportements de protection qui soulagent à court terme, mais renforcent la peur à long terme. Éviter les transports. Surveiller son corps en permanence, ne sortir qu'accompagné, vérifier sans cesse son état ou chercher un environnement parfaitement rassurant peut donner l'illusion de se protéger. Pourtant, ces stratégies transmettent au cerveau le message que le danger est réel et omniprésent. dans un manuel orienté vers la libération des troubles anxieux. Il est vraisemblable que ce tome occupe une place importante, car il correspond à un mécanisme bien connu dans les approches comportementales et cognitives. Le changement ne consiste pas seulement à se calmer sur le moment, mais à réduire progressivement la dépendance à ses sécurités. Cela demande souvent un travail précis sur les habitudes, les anticipations et la tolérance à l'incertitude. Le lecteur apprend alors que le vrai progrès n'est pas l'absence totale de peur, mais la capacité à continuer malgré elle, sans organiser toute sa vie autour de sa prévention. Cette idée a une portée pratique considérable. Elle transforme la question de départ, qui n'est plus comment ne jamais ressentir d'anxiété, mais comment cesser de lui obéir systématiquement. C'est une différence décisive pour retrouver de la liberté dans la vie quotidienne. En dernier lieu, vers une autonomie durable face aux troubles anxieux. Le titre annonce une visite de libération, ce qui laisse entendre une recherche d'autonomie plus qu'un simple soulagement ponctuel. Dans ce type d'ouvrage, la logique la plus utile consiste à donner au lecteur un cadre qu'il peut réutiliser seul dans la durée. Les troubles anxieux évoluent souvent par phases, avec des périodes d'amélioration puis des retours de sensibilité au stress. Un bon manuel ne promet donc pas une vie totalement sans anxiété, mais une meilleure capacité à reconnaître les signaux. Appliquer des outils adaptés et ne pas replonger dans les anciennes interprétations catastrophiques. Cette perspective d'autonomie est importante, car elle réduit le sentiment de dépendance à une aide extérieure permanente. Elle valorise aussi les progrès progressifs. Parfois modestes mais significatifs, comme reprendre une activité évitée, traverser une honte d'angoisse avec moins de panique ou retrouver une marge de choix dans le quotidien. Si le livre tient sa promesse de manuel, sa force potentielle réside dans cette dimension opérationnelle. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les troubles anxieux en théorie, mais d'intégrer une discipline mentale qui permette de mieux répondre aux moments difficiles. Cet ancrage dans la pratique correspond aux attentes de nombreux lecteurs confrontés à des crises répétées et en quête de repères applicables immédiatement. En conclusion, en finir avec les crises de panique et d'angoisse semble s'adresser en priorité aux personnes qui vivent des attaques de panique. Une anxiété récurrente ou une peur persistante de perdre le contrôle face à leurs sensations internes. Le livre peut aussi intéresser les lecteurs qui recherchent un cadre d'auto-aide concret, centré sur la pratique mentale et sur la compréhension des mécanismes qui entretiennent la peur. Son bénéfice probable réside dans la combinaison entre explication accessible et orientation vers l'action. Pour beaucoup de lecteurs, le premier soulagement vient déjà du fait de mieux nommer ce qu'ils traversent et de comprendre que les symptômes anxieux suivent des logiques connues. Le second bénéfice est plus pratique encore, puisqu'un manuel d'entraînement suggère une progression active pour modifier les réflexes de panique, réduire l'évitement et retrouver davantage d'autonomie. Par rapport à d'autres livres du même domaine, il se distingue vraisemblablement par son positionnement direct, ciblé et centré sur un travail mental appliqué aux troubles anxieux. Sans prétendre remplacer un accompagnement professionnel quand il est nécessaire, un tel ouvrage peut constituer un appui utile pour reprendre confiance. Structurer ses efforts et avancer avec plus de clarté dans un domaine souvent dominé par la confusion, la peur anticipée et le sentiment d'impuissance. Si vous souhaitez soutenir William Van Den, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!